C'est le décalogue, autrement dit les 10 commandements, qui seront l'objet de notre méditation ce matin. Je lis. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte pour te faire entrer dans ma maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras aucune image ou idole à la ressemblance d'aucune créature, d'aucune région de l'univers. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit impitoyablement ceux qui désobéissent jusqu'à la 3e, 4e génération et n'a d'indulgence que pour ceux qui observent intégralement tous mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Rappelle-toi le jour du sabbat pour le skiffier. Tu travailleras 6 jours, pas 5, et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est sabbat pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne te feras absolument rien, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton bétail, ni les immigrés dans tes villes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi il a fait du jour du sabbat un jour sacré. Obéis à ton père et à ta mère, sinon Dieu t'éliminera bien vite du pays où tu vas entrer, etc., etc., jusqu'au 10e, qui condamne pour un simple désir. Vous vous êtes rendu compte des modifications que j'ai apportées au texte authentique. C'est une version trafiquée du décalogue que je viens de faire entendre. Les changements apportés changent non seulement le ton, mais le sens. Malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils entendent le décalogue, croient entendre l'espèce de version trafiquée que je viens de lire. Quand on proclame les 10 commandements, c'est ce Dieu impitoyable, ce Dieu tyrannique qui fait entrer dans une prison, la prison de la loi, les hommes et les femmes de son peuple, que les gens croient percevoir. Alors il me semble opportun que nous considérions ce matin la vraie version du décalogue et des 10 commandements selon le sens authentique. Et si j'ai choisi de le faire aujourd'hui, c'est aussi pour marquer d'un fort symbole notre communion d'esprit avec nos frères et sœurs qui sont réunis à la convention de l'association des églises dont nous faisons partie, qui se tient pour son dernier jour à Dijon. Vous le savez, notre pasteur a été organisateur en première position de cette rencontre et il s'y trouve, et d'autres de notre église. Et c'est tout spécialement le décalogue, les 10 commandements, qui devait être ces jours-ci l'objet de la méditation de nos frères et sœurs. Bien entendu, devant un tel monument, le décalogue, il n'est pas question pour nous d'être exhaustifs. Ce matin, nous ne pouvons que scruter quelques facettes de cet ensemble si riche. Nous n'allons pas pouvoir reprendre chacun des commandements à son tour, ce serait pour toute une série de prédications, mais nous allons nous intéresser à quelques-uns des points importants qui le concerne. Et d'abord, il faut lire le texte véritable. Alors, je le lis maintenant et j'ajouterai la lecture de quelques versets du Nouveau Testament qui fournissent une sorte d'écho. Donc, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, je lis les 17 premiers versets. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu » qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Et puis je lis quelques versets dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, dans le Nouveau Testament, donc épître aux Galates, au chapitre 5, le premier verset et les versets 13 à 15. C'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. La première question qui me semble devoir nous retenir, c'est la question de la pertinence pour nous. Nous, les chrétiens, nous, les croyants de la nouvelle alliance, de ces commandements que le Seigneur a donnés à Israël peu après l'avoir libéré de la tyrannie égyptienne, lorsqu'il a conclu ce que le Nouveau Testament appelle l'ancienne alliance, par le moyen du médiateur Moïse, il lui a donné toute une législation et le cœur du contrat d'alliance entre Dieu et les siens, c'est cet ensemble des 10 paroles, des 10 commandements que le Seigneur a prononcés. En quoi est-ce que cela nous concerne? Puisque nous relevons d'une alliance distincte, la nouvelle alliance conclue avec Jésus-Christ comme médiateur. La loi a été donnée par Moïse, dit le premier chapitre de l'évangile selon Jean. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En quoi le décalogue, au cœur de la loi donnée à Israël, nous concerne-t-il? La première chose à dire, c'est que nous ne sommes plus sous la loi. C'est une expression que le Nouveau Testament emploie, que l'apôtre Paul utilise. Et cette loi pour Israël ne s'applique pas de la même façon aux chrétiens, de la même façon qu'elle s'appliquait aux enfants du peuple d'Israël autrefois. L'apôtre Paul est à cet égard extrêmement net. Et il a pu dire que pour gagner les païens, les non-juifs, il avait été comme sans loi. C'est au chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens qu'il emploie cette expression. Il me semble qu'on doit clarifier les choses cependant. Et autrement, la complexité de l'enseignement du Nouveau Testament, le texte de la Nouvelle Alliance, nous échappe et finalement nous nous égarons. Dans quel sens ne sommes-nous plus sous la loi ? Dans 2 sens, en fait. Le sens est double. Nous ne sommes plus sous l'obligation de remplir entièrement toutes les exigences de la loi pour être acquitté au tribunal de Dieu, pour n'être pas condamné, condamné à mort, comme le méritent, dans le système de la loi, ceux qui n'obéissent pas entièrement, intégralement. Car le Nouveau Testament le souligne aussi, il s'agit d'obéir à tout. Si on obéit à 99 commandements, mais que le centième, on le viole, on est coupable à l'égard de toute la loi. Le système de la loi suspend l'acquittement au tribunal de Dieu, qui est le juste juge, à l'obéissance intégrale à l'ensemble des commandements. Nous ne sommes plus sous la loi. Cette loi ne pouvait conduire qu'à la mort, parce que personne, sauf Jésus, personne n'a jamais obéi à tous les commandements, jamais au 100%, et tous ceux qui sont sous la loi sont sous la condamnation. Nous ne sommes plus sous la loi parce que Jésus-Christ a pris sur lui la condamnation que nous avions méritée. Il y a eu transfert, la charge de nos péchés a été mise sur ses épaules. Il a payé pour nous, comme nous l'avons chanté, et nous ne sommes plus maintenant astreints à cette exigence logique de l'obéissance à la loi pour que Dieu nous dise « Tu es en règle avec moi ». Je te souris maintenant au lieu de te montrer mon indignation à l'égard du péché. Ton péché n'est plus sur toi. Tu n'es plus considéré comme coupable de ces fautes au sens de devoir en payer le prix. C'est dans ce sens que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce de Jésus-Christ. Il a pris notre place et maintenant nous sommes couverts par lui. Comme on dit qu'un chef peut couvrir ses subordonnés. Notre chef nous couvre, couvert par ta justice. J'entrerai dans le saint lieu. C'est dans ce sens, d'abord. Mais c'est aussi dans ce sens que la loi de Moïse comportait diverses dispositions ou ordonnances temporaires que Dieu avait données à Israël pour préfigurer ce qui adviendrait au temps de Jésus-Christ. Ces ordonnances que le Nouveau Testament appelle parfois charnelles parce qu'elles concernent le comportement extérieur, ces ordonnances sont désormais abolies. Cela ne veut pas dire qu'il ne soit plus intéressant pour nous de les étudier parce que leur signification, comme c'était des images qui annonçaient ce qui devait venir, leur signification nous intéresse encore. Il y a des leçons pour nous à tirer. Mais nous ne sommes plus astreints à ces lois qui étaient les lois de Dieu, mais des lois de Dieu pour un temps déterminé et dont le Nouveau Testament nous montre clairement qu'elles sont devenues caduques dans leur vigueur littérale. Parmi ces commandements, il y a celui de la circoncision, celui des sacrifices à offrir. Nous ne sommes plus astreints à pour avoir l'expiation de nos fautes, d'offrir des agneaux ou des taureaux, comme le faisaient les enfants d'Israël. C'était une énorme part de leur culte, qui était d'ailleurs une réelle boucherie. Le sang coulait à flot du sang animal, hein, c'est, dans le temple. C'était très différent des temples que nous connaissons aujourd'hui. Nous ne sommes plus sous l'obligation de respecter ces dispositions diverses qui n'avaient un sens que temporaire dans le plan de Dieu. Et nous sommes libres à leur égard. Mais nous ne sommes pas cependant sans loi. Dans le passage où l'apôtre Paul, auquel j'ai fait allusion il y a un instant, où l'apôtre Paul dit qu'il a été comme sans loi pour gagner les païens qui n'avaient pas la loi de Moïse, il ajoute aussitôt, bien que je ne sois pas sans loi, je suis littéralement dans la loi du Christ. La loi cesse d'être pour nous ce qu'elle était exactement pour les enfants d'Israël, mais les commandements de Dieu balisent toujours pour nous la voie de la vie. Il s'agissait de l'expression de la volonté du Dieu saint et bon, qui est notre Dieu, qui est notre Père. Et les commandements tracent la manière de vivre qui convient aussi aux enfants de Dieu aujourd'hui. C'est une définition du bien. Et le bien ne change pas d'une époque à l'autre, car Dieu, qui est, au bout du compte, le seul absolument bon, il n'y a de bon que Dieu seul, dit Jésus, ce Dieu s'est exprimé par ses commandements en les confiant à Moïse et au peuple de Moïse. Cela reste aujourd'hui encore le bien, et celui qui reconnaît en Dieu son Père aujourd'hui ne peut pas négliger cette expression du bien, la volonté de Dieu qui est donnée dans le Décalogue. Et c'est pourquoi nous voyons les commandements cités dans le Nouveau Testament. Pratiquement tous les commandements, sauf un seul, je vais y revenir, sont repris soit expressément, soit dans leur contenu, par les enseignements du Nouveau Testament, comme des indications de la voie à suivre pour les chrétiens aussi. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors, s'il y a quelque chose d'évident, c'est le Seigneur Jésus qui a souligné que nul ne peut servir deux maîtres. Pas d'autre Dieu, pas d'idole. Les idoles, d'ailleurs, prétendant souvent être des images du vrai Dieu. Le veau d'or, c'était le Dieu qui avait fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël. C'était l'Éternel, prétendument. Mais l'Éternel ne tolère pas de telles représentations qui faussent tout dans le rapport à lui. Alors, pas d'idole, mais le Nouveau Testament nous avertit aussi bien contre les idoles. Le dernier verset de la première épître de Jean, c'est « Petits-enfants, gardez-vous des idoles ». Et pour les autres commandements, Jésus précisément reprend ces commandements et les approfondit, les radicalise dans le sermon sur la montagne. « Tu ne commettras pas de meurtre ». Jésus n'abolit pas ce commandement, au contraire. Il dit que quiconque enseignerait d'abolir même le plus petit commandement, il serait considéré comme le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais il dit, tu ne commettras pas de meurtre, ça commence déjà dans le langage. Ça commence déjà avec les insultes. On veut éliminer l'autre. C'est une parole qui tue. Et Jésus dit, en fait, il est déjà passible du tribunal suprême, celui qui parle de cette façon. Et l'apôtre Jean, de nouveau, dit « Celui qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. » Donc le commandement du meurtre, il est bien là. De même pour l'adultère. La convoitise, c'est déjà de l'adultère, dit Jésus. Le germe est déjà là. L'apôtre Paul souligne que celui qui volait, il cesse de voler. Dans l'épître aux Éphésiens, il souligne ce respect de la propriété d'autrui, le respect du témoignage, du serment et du témoignage. Jésus l'a souligné de nouveau. Et Jésus, justement, met en cause la convoitise. Donc, nous avons pour tous ces commandements une confirmation tout à fait nette dans le Nouveau Testament qu'il n'est pas question de les considérer comme abrogés en tant que règle de vie. Si nous les transgressons, alors nous avons un avocat auprès du Père. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché lorsque nous confessons ces péchés et nous en sommes purifiés. Nous avons une application nouvelle de la grâce de Jésus-Christ qui a tout payé pour nous. Mais ces commandements continuent de marquer dans quelle direction nous avons à marcher. Sauf un, vous ai-je dit, oui, le sabbat. Là, pour le sabbat, il nous est dit clairement que le sabbat faisait partie de ces dispositions temporaires. Dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul dit au verset 16 et 17 du chapitre 2, « Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, pour les règles alimentaires qui étaient dans la loi de Moïse, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, c'était des éléments du calendrier liturgique que Moïse avait fixé, ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, c'était l'ombre, l'image préparatoire, mais la réalité est celle du Christ. L'apôtre Paul classe clairement dans ce passage le sabbat parmi ces réalités préfiguratrices qu'il appelle des ombres, qui annonçaient ce qui allait venir en Jésus-Christ. Et l'Épître aux Hébreux nous explique ce dont le sabbat était l'image à l'avance, l'ombre. C'est notre repos en Christ. C'est le fait que nous n'avons plus précisément à accumuler des œuvres pour pouvoir accéder jusqu'à Dieu, que nous nous reposons de nos œuvres dans la certitude de la pure grâce de Dieu. Donc le sabbat, c'est toujours intéressant pour nous, mais vous voyez, la loi de Moïse comme telle ne pèse plus sur les chrétiens. J'ai dit que les Israélites étaient soumis au commandement du décalogue autrement que nous ne pouvons nous y rattacher. Il faut cependant souligner que l'intention des 10 commandements, lorsque Dieu les a donnés au peuple d'Israël, était quand même à peu près la même que ce dont nous pouvons nous en tirer aujourd'hui, que l'usage que nous pouvons en faire. Car ce système de la loi, il faut obéir à tout pour être agréé de Dieu et pouvoir tenir devant lui sans être condamné. Et ce système de la loi, il était dans la loi de Moïse à titre pédagogique, dit l'apôtre. C'était un pédagogue pour conduire au Christ. En d'autres termes, c'était pour que les hommes et les femmes d'Israël se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas et qu'ils devaient recourir à la grâce de Dieu que ces commandements étaient donnés avec la règle « celui qui fera ces choses vivra par elles ». Il faut obéir pour avoir la vie. Ce n'était pas le but de Dieu, c'était une étape pédagogique comprise, même pour les enfants d'Israël, dans l'ensemble de l'Ancienne Alliance, pour qu'ils saisissent que vraiment, non, par leurs propres œuvres, ils n'y arriveraient pas, que leur propre justice serait toujours insuffisante, et pour que d'avance, ils portent leur espérance vers le Christ, que d'avance, ils espèrent dans le Christ promis, qu'ils se confient en la grâce de Dieu. En fait, pour les enfants d'Israël aussi, avec l'addition des dispositions préparatoires, la loi ne devait pas être une tyrannie. Elle a été mal prise par un certain nombre de juifs, en particulier les pharisiens, qui en ont fait un instrument de tyrannie. Mais dans l'intention divine, c'était une façon pour Dieu d'apprendre aux Israélites à ne compter que sur lui, que sur sa grâce. Et il se présente en libérateur. C'est pour ça que le préambule du décalogue, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, on pourrait traduire du bagne, hein, de cette maison où les esclaves étaient parqués pour que leur maître puisse les exploiter à loisir. L'Égypte était devenue le bagne pour les Israélites. Et Dieu les en a fait sortir. Dieu est le libérateur. Et s'il leur donne ces 10 paroles ensuite dans le désert, en concluant son alliance avec eux, c'est pour leur indiquer la voie de la vie. Les ayant libérés, il leur indique la manière de plaire à leur libérateur et de vivre d'une façon qui soit saine et sage dans sa communion. Pour les Israélites eux-mêmes, c'était là le sens qu'aurait dû avoir le décalogue. Et nous pouvons, me semble-t-il, faire le commentaire que c'est bien une illusion pernicieuse que celle qui s'imagine que la liberté réside dans l'absence de commandements, l'absence de normes. Je fais ce que je veux. En fait, toute liberté ainsi comprise est en réalité un esclavage pénible. Dans le vide du « je fais ce que je veux », alors chacun est en proie à ses pulsions, à ses forces qui sont au-dedans de nous et que nous ne maîtrisons pas. Chacun est la cible des manipulations du monde et de ses mensonges. Chacun est la proie de ces puissances spirituelles qui sont dans le monde et qui tyrannisent les humains. Je trouve que ce que les médias nous présentent est très, très symptomatique aujourd'hui. Et encore ces jours derniers, j'entendais encore ce matin, je crois, à la radio. On parle des idoles, hein, des idoles, les grandes vedettes, auxquelles vraiment beaucoup rendent un culte autour de nous. Ils font des pèlerinages à la maison. Or, combien de ceux-là qui se sont suicidés, qui sont morts d'overdose, vraiment une voie de mort, c'est à propos de cette chanteuse britannique que j'entendais ces informations, au moment où elle est morte il y a 15 jours, on disait, mais voilà, c'est, à 27 ans, c'est l'âge pour tout cela, 27 ans, 27 ans, 27 ans, celui-là, qui est mort. Et on fait des pèlerinages à la gloire de ces images de destruction, d'autodestruction. C'est notre monde, c'est le monde dans lequel nous vivons. La fausse liberté qui conduit à la mort. Le décalogue, c'est la formule même de la liberté que le Dieu libérateur veut faire vivre à ses enfants. Et au fond, on pourrait dire que le message du décalogue, c'est à peu près celui du premier verset de l'Épître aux Galates que nous avons lu. C'est pour la liberté que je vous ai libéré, dit le Seigneur. Ne vous laissez pas remettre sous un joug d'esclavage ces faux dieux qui sont d'horribles tyrans et ces forces que vous ne pourrez pas maîtriser si vous n'avez pas des repères que je vous donne. Voilà, me semble-t-il, comment nous pouvons résumer la signification pour nous, globalement, des commandements. Je pense que je peux rajouter quelques indications sur leur contenu. La structure de cet ensemble, et en particulier ce qui se trouve à la jointure des deux tables. Parce qu'on parle très classiquement des deux tables de la loi, des 10 commandements du décalogue. C'est le texte lui-même qui nous parle de deux tables de pierre que Dieu lui-même a gravées avec les 10 paroles. Certains experts estiment que les deux, ça voulait dire deux exemplaires identiques qui représentaient l'un l'exemplaire du Seigneur et l'autre l'exemplaire du vassal, le peuple. Mais tous deux réunis dans l'arche parce que c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. Peut-être, mais classiquement, on pense que les deux tables correspondent aux deux séries de commandements, les 5 premiers et les 5 derniers. Commandement 1 à 5, commandement 6 à 10. Ces deux tables semblent correspondre en effet d'une part au rapport à Dieu dans les 5 premiers, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Et d'autre part au rapport au prochain pour les 5 derniers. Cette structure est très intéressante parce qu'elle correspond à celle du résumé que Jésus lui-même nous a donné. On lui a demandé un jour quel est le plus grand commandement. Alors il a répondu par le texte que l'on trouve dans le Deutéronome, mais qui est une sorte de résumé de la première table de la loi du décalogue. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, de toute ta force. Mais Jésus a rajouté, et puis voilà le second commandement qui lui est semblable. On ne lui avait pas demandé, c'est lui qui l'a rajouté. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux tables de la loi, commandement 1 à 5, commandement 6 à 10, correspondent finalement à ces deux commandements d'amour que le Seigneur Jésus a fait se rejoindre, a articulé l'un à l'autre. Et l'articulation, elle correspond à la structure même de la création. Le prochain. Mais le prochain, c'est celui qui a été créé, selon la Genèse, en image de Dieu. En image de Dieu. Alors c'est tout à fait logique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et puis tu aimeras son image. La seconde série des 10 paroles correspond à une application au plan de l'image de ce qui vaut d'abord dans le rapport à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras celui qui pour toi représente Dieu sur la terre. S'il y a interdiction de faire des images, mais c'est parce que Dieu lui-même a fait son image et il nous l'a donnée à aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les commandements détaillent ce que cela signifie, et c'est d'ailleurs ce que nous avons lu dans l'Épître aux Galates. Toute la loi se résume en ce commandement. Tous les commandements ont pour sens de développer cet amour du prochain qui est l'image de l'amour de Dieu, selon que le prochain est image de Dieu. Vous voyez la logique extraordinaire que toute la Bible atteste. Et c'est pourquoi Jean, dans sa première épître, nous dit « Comment quelqu'un peut-il prétendre aimer Dieu, qui ne voit pas, et puis en même temps haïr son prochain, qu'il voit, puisque c'est l'image de Dieu ?» La structure est remarquable. Mais il y a un élément de cette structure qui mérite encore d'être mis en évidence. J'ai dit la première table, les cinq premiers commandements, c'est le rapport à Dieu, et les cinq qui suivent, le rapport au prochain. Mais le cinquième, c'est « honore ton père et ta mère ». C'est pas Dieu, c'est le prochain. Très proche prochain. Pourquoi dit-on que la première table, alors c'est l'ensemble de ce qui se rapporte à Dieu? Parce que si le père et la mère sont nommés dans ce commandement, c'est parce qu'ils sont par excellence les représentants de Dieu. L'homme en général, l'être humain en général, est image de Dieu par création. Mais plus spécialement, Dieu a institué la paternité et la maternité comme son image particulière. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, dit que toute paternité tire son nom du Père. Qu'est Dieu. Il y a là une image tout à fait spéciale. Et si les parents figurent dans la première table de la loi, c'est qu'ils y sont comme représentants de Dieu. Il y a à reconnaître Dieu dans son unicité, un seul Dieu, dans sa propre révélation, au lieu de fabriquer une image, dans l'honneur de son nom, dans le jour qu'il a sanctifié pour lui, et dans ses représentants particuliers que sont le Père et la Mère. Et je souligne le Père et la Mère. Dieu est bien sûr appelé Père habituellement, et ça a un sens, il ne s'agit pas pour nous de renverser cet usage biblique, mais l'Écriture souligne en même temps que c'est un Père maternel qui s'occupe de ses enfants avec la tendresse d'une mère. Il y a un verset qui me touche beaucoup dans le chapitre 66 d'Ésaïe, tout à la fin d'Ésaïe. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai, dit l'Éternel. Pas comme un bébé que sa mère console. Comme un homme que sa mère console. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur connaît notre cœur. Comme un homme que sa mère console. Je vous consolerai, dit le Seigneur. Le Seigneur a choisi d'être représenté par le Père et la Mère. Alors il s'agit d'honorer, c'est-à-dire, selon l'étymologie du terme utilisé dans l'original, donner du poids. Il ne s'agit pas automatiquement de faire ce qu'ils veulent. Il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle. Il ne s'agit pas, à tout âge, d'en passer par les lubies éventuelles des parents, car ça existe aussi dans ce monde déréglé par le péché. Parfois, il faut obéir à Dieu plutôt qu'à ses parents. Et Jésus lui-même nous en a donné l'exemple. Jésus, quand ses frères pensaient qu'il fallait le remettre au parc, que c'était un illuminé, et qu'ils sont venus avec sa mère, semble-t-il, pour raisonner Jésus. Jésus n'a pas été au-devant d'eux. On lui a dit, ta mère et tes frères sont là, ils te demandent. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc Jésus ne s'est pas laissé simplement écrasé par le commandement d'honorer ses parents. Il a honoré Marie à cette occasion en lui résistant quelque peu, comme il l'a fait aussi à quelques autres occasions. Donc honorer ne veut pas dire toujours automatiquement obéir, mais cela veut dire donner du poids. Cela veut dire ne pas mépriser, cela veut dire écouter, comme on voit bien dans le Deutéronome. En tant que représentant de Dieu, qui est le Père, avec un soin maternel. Et alors ici surgit une question douloureuse que je ne peux pas éviter. Tous les parents humains, j'en suis bien sûr, sont très loin du modèle divin. Nous sommes tous bien en dessous de la barre. Mais il y a certains cas qui sont douloureux au-delà de toute mesure. Il y a des gens qui ont subi de la part de leurs parents indignes des choses terribles qui les ont très profondément blessés. Que faire dans un pareil cas? Des bonnes paroles, comme je peux en prononcer, ne suffisent pas. Je crois que c'est seulement l'expérience du soin paternel et maternel de Dieu qui peut être un baume, qui peut être un remède. Dieu seul peut corriger une image qui a été au fond d'eux-mêmes complètement tordue. Mais il me semble que la voie que le Seigneur veut faire suivre, alors c'est lui seul qui le peut, mais c'est malgré tout ce qu'il y a eu d'indigne dans de tels comportements, d'honorer ce qui est resté de la représentation divine. Ils ont donné la vie quand même. Et en cela, ils ont été les représentants, les images de Dieu qui donne la vie. Et le plus souvent, malgré des choses indignes, il y a eu aussi des traits qui ont marqué une ressemblance avec Dieu. Et il s'agit d'honorer cela, de le reconnaître, de ne pas se laisser emporter, engloutir par l'amertume, le ressentiment, la fausse culpabilité aussi, car cela existe, le mépris. Il s'agit d'honorer ce qui correspond à l'image de Dieu chez le Père et la Mère. L'apôtre Paul souligne, lorsqu'il cite ce commandement, au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, c'est le premier commandement avec une promesse. Ce commandement, c'est le seul dans le décalogue qui inclut une promesse afin que tes jours se prolongent dans ce beau pays que le Seigneur te donne, la terre promise. La longévité paisible sur la terre d'Israël est une image de la vie éternelle. Il y a une promesse tout spéciale qui s'attache à ce commandement parce qu'il est à la charnière. Un commandement qui concerne ses prochains que sont les parents, mais en tant que représentant de Dieu. Donc c'est à la jointure des deux tables de la loi, en quelque sorte. Et s'il en est ainsi, je pense que nous pouvons dire que ce commandement représentant les 9 autres, alors la promesse est pour les 9 autres aussi. C'est tout le commandement de Dieu dans son unité qui est marqué, porté par la promesse de Dieu, la promesse de la vie. Le Dieu qui nous donne toutes ces directives, c'est le libérateur, c'est le Père maternel, c'est le Dieu qui veut que nous soyons en sa présence comme des fils et des filles qui s'épanouissent, qui entrent dans son plan, qui propagent autour d'eux la liberté qu'il donne. Que le Seigneur nous fasse éprouver au plus profond de nous-mêmes qu'il est le Dieu de la promesse dans tous les commandements qu'il a prescrits pour nous, pour notre bien, pour que sa gloire, le resplendissement de ce qu'il est, se voit aussi dans notre vie. Amen.